Bonsoir. C'est bien le fantôme de la radio qui vous parle. Cela fait des lustres que je fréquente ces lieux chargés de son et de lumière. Cette grande maison, comme on l'appelle encore quelquefois, je la connais comme ma poche. Invisible de jour comme de nuit, j'ai baladé ma frêle silhouette un peu partout entre ces murs sans jamais me faire remarquer. Bien tapis dans l'ombre des studios, j'ai assisté incognito à des milliers d'émissions tant en radio qu'en télévision. Je vous demanderai donc de rester discret à propos de ma présence ici, car, à part vous, chers auditeurs, personne ne sait qu'un fantôme hante ces lieux et observe tout ce qui s'y passe. À présent, il est temps pour moi de vous transmettre ce que j'ai vu et entendu pendant ces nombreuses années, en vous confiant chaque semaine un récit inspiré de mes souvenirs. Alors si vous avez encore un doute quant à mon existence, je vous conseille de rester bien à l'écoute. Seul un esprit qui a traversé les âges peut vous raconter des histoires comme celles que vous allez entendre ce soir.
Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi j'ai mon regard. Les étoiles, dites-moi étoile qui vous regardera.
Les étoiles fascinent les hommes depuis la nuit des temps. Inspirés par le mystère de cette immensité qui nous entoure, des écrivains, des dessinateurs ou encore des cinéastes ont imaginé mille et une histoires de voyages vers d'autres planètes, à la rencontre de créatures étranges et de civilisations inconnues aux confins de la galaxie. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces rêves de mission vers l'infini ne sont que chimères et utopies. Mais lorsque la guerre froide s'installe entre les Américains et les Soviétiques, la conquête spatiale devient une réalité qui se transforme très rapidement en enjeu stratégique, politique et scientifique. Pendant plusieurs décennies, l'URSS et les États-Unis vont se livrer une bataille sans merci dans cette course à l'espace. La compétition amène chaque camp à se surpasser. Il faut à tout prix faire mieux que le rival qui vient tout juste de signer un exploit extraordinaire. Cette surenchère permanente engendre des progrès fulgurants. En moins de 15 ans, on passe d'un petit satellite soviétique appelé Sputnik à l'exploration de la Lune par des astronautes américains. Passionnés par l'astronautique, quelques journalistes de la RTB couvrent l'actualité spatiale pour la radio. Parmi eux, il y a José Faustier. Ses billets, commentaires et reportages sur une matière a priori hermétique sont des modèles de clarté, de rigueur et de pédagogie. Son enthousiasme à commenter les événements venus de l'espace captivera les auditeurs pendant de nombreuses années. Écoutons sans plus tarder ces grands moments de radio qui nous plongent au cœur de la conquête spatiale, décompte avant décollage.
10, 9, we have ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Commit. Liftoff. We have liftoff at 11 a.m. Eastern Standard Time.
Alliés face au nazisme, l'URSS et les États-Unis d'Amérique sont désormais rivaux, pour ne pas dire ennemis. Dans ce monde en reconstruction, quelques années seulement après la Seconde Guerre mondiale, les deux puissances se font face, se menacent et s'affrontent par pays interposés. Dans leur ligne de mire reste un territoire infini à conquérir, l'espace. Nous sommes en 1957, la compétition sans pitié entre soviétiques et américains commence.
Nous sommes à Barcelone.
José Faustier.
Des savants du monde entier commencent à arriver pour le 8e congrès de la Fédération internationale d'astronautique et la publicité donnée au projet de satellite américain Vanguard alimente toutes les conversations. Dans l'état de leur connaissance, les spécialistes savent qu'il faut 10 tonnes de fusée pour placer 1 kg de matière sur orbite autour de la Terre. C'est une performance difficile à réaliser. Bien sûr, les Soviétiques aussi ont annoncé leur intention de lancer des satellites artificiels, mais personne n'y croit vraiment. Pourtant, ils ne vont pas tarder à convaincre les sceptiques et les pessimistes. Le matin même, toutes les radios du monde font entendre la voix du premier engin spatial de l'histoire. Petite sphère de 58 cm, 83 kg, 628 000 km à l'heure, Sputnik 1 frappe à la porte du cosmos et donne le départ de la conquête de l'espace. Un mois plus tard, le 3 novembre, Sputnik 2 emporte au-delà des couches denses de l'atmosphère une petite chienne, Laika. Les battements de son cœur s'inscrivent sur les consoles du laboratoire comme un message d'espoir transmis par le premier être vivant sorti des limites terrestres. Hélas, en 1957, on ne récupère pas encore les satellites artificiels. Aiguillonnés par la réussite des Soviétiques, les Américains mettent les bouchées doubles. Le projet Vanguard n'ayant pas immédiatement répondu à leur attente, il donne carte blanche au plus célèbre constructeur de fusées, Werner von Braun, à condition qu'il place un satellite américain sur orbite dans les 3 mois. Résultat, 84 jours plus tard, le 1er février 58, Explorer 1 s'installe dans l'espace. Il est beaucoup plus léger que le premier Sputnik, il ne pèse que 14 kilos, mais cela n'empêchera pas de faire une découverte extrêmement importante, les zones de radiation qui entourent notre globe et que l'on nomme aujourd'hui les ceintures de Van Allen.
Après avoir lancé la conquête spatiale avec son Sputnik, l'URSS frappe un grand coup le 12 avril 1961.
Космонавтом майор Гагарин Юрий Алексеевич.
12 avril 61. Dans une base aérienne quelque part en Union soviétique, l'horloge électronique marque 9h07. Yuri Gagarin, major entièrement dévoué à l'armée de son pays, pilote d'essai, sent se déchaîner sous lui dans un grondement terrifiant des forces domestiquées par les savants, des savants anonymes. Une grande aventure commence pour un homme que l'exploration scientifique propulse à la fois dans l'espace inconnu et au sommet de la célébrité. Vostok 1, le premier vaisseau spatial, 4725 kg, s'élève dans le ciel, porté par une fusée dont la puissance va étonner les spécialistes occidentaux. Personne dans le monde ne s'attend à un tel exploit. L'homme de la rue, tout autant amusé qu'ébahi par le bip-bip du premier Sputnik en 1957, ne croit pas encore à la conquête de l'espace. Et pourtant, ce 12 avril 61, dans le crépitement des parasites, il va entendre le premier message transmis du cosmos par le plus audacieux explorateur des temps modernes.
Très bien, j'observe la Terre, la visibilité est bonne, je vous entends parfaitement, le vol se poursuit dans de bonnes conditions, j'observe la Terre, visibilité est bonne, on peut tout voir, je poursuis le vol, tout va bien, tout fonctionne normalement, je me sens très bien, nous continuons, la machine fonctionne bien.
Savants et profanes du monde entier sont littéralement secoués par cette nouvelle. Un homme tourne autour de la Terre. Échappant aux lois de la pesanteur, il ouvre une ère nouvelle et inaugure officiellement la grande époque des voyages interplanétaires, jusqu'ici réservée aux imaginations fertiles et aux romans de science-fiction. À court de superlatifs, le monde s'en va répétant « c'est formidable ». Et ce l'est en effet. Yuri Gagarin, après avoir supporté 10 fois le poids de son propre corps, après avoir vécu 90 minutes dans le cosmos à 28 000 km à l'heure, redescend. Et modestement, il dédie son exploit à Nikita Khrushchev, alors le numéro 1 de l'URSS, et à son pays.
Le 14 avril 1961, soit 2 jours après son voyage en orbite autour de la Terre, Yuri Gagarin est accueilli à Moscou avec les plus grands honneurs. L'URSS lui fait un véritable triomphe.
La population, enthousiasmée par ce succès, fait de Yuri Gagarin son héros des temps modernes et vient l'acclamer lorsqu'il rentre à Moscou.
Notre parti et gouvernement, Major Gagarin.
Après le début de l'ère spatiale, Yuri Gagarin s'adresse personnellement aux auditeurs de la RTB. Nous remercions l'ambassade du RSS à Bruxelles et les émissions en langue française de Radio Moscou qui nous ont fort aimablement servi d'intermédiaire auprès du premier homme de l'espace. Et nous écoutons ce message exclusif de Yuri Gagarin. L'humanité entre dans la deuxième décennie de l'ère cosmique. Je pense au lancement du premier satellite artificiel de la Terre, le Spoutnik, effectué en URSS le 4 octobre 1957. Vous conviendrez avec moi que ce fut un événement extrêmement symbolique. Je ne peux pas, quant à moi, me vanter d'avoir supposé, en entendant parler du premier Spoutnik, que j'aurai l'honneur et le bonheur d'être le premier, et même en général d'être cosmonaute. Pourquoi est-ce moi qui fus le premier cosmonaute? Eh bien, même aujourd'hui, il m'est difficile de répondre à cette question. Je me bornerai à dire que, de par ma conviction profonde, mes amis les cosmonautes qui s'entraînaient au vol avec moi avaient toutes les raisons de partir les premiers. J'ignore quelle fraction de milligramme sur la balance de la commission gouvernementale fit pencher le fléau à mon avantage. Mais les faits sont les faits, c'est moi qui fus nommé avec German Titov comme doublure. Évidemment, Yuri Gagarin n'a absolument rien oublié de cette fantastique randonnée autour de la Terre. On n'a jamais su calculer la vitesse de la pensée humaine, mais je crois qu'en une heure, j'ai revu toute ma vie. Je me suis revu fils de paysan de la région de Smolensk, devenu ouvrier puis pilote. J'ai aimé, je suis devenu père, j'ai étudié, j'ai grandi. Mais à quelques moments que j'ai repris mes souvenirs, je revenais toujours à la même chose, à un sentiment de profonde gratitude pour la confiance que l'on m'accordait. Aussitôt que le Vostok eut franchi les couches denses de l'atmosphère, je vis la Terre. Le vaisseau survolait un large fleuve sibérien. Je voyais nettement les îlots, les rives. Je distinguais des chaînes de montagnes et des lacs. Et c'était l'horizon qui était le plus beau. La Terre était ceinte d'une auréole d'un bleu tendre qui passait par le bleu intense, le bleu sombre, le violet, avant de se fondre dans le noir.
La conquête spatiale démarre bien mal pour l'oncle Sam. L'histoire retiendra que le premier homme dans l'espace est un soviétique et pas un américain. Si les États-Unis se font damer le pion par l'URSS, ils ne renoncent pas pour autant à leurs ambitions. Ils répondent aux soviétiques en deux temps.
En avril 61, les Américains talonnent véritablement les soviétiques. Maintenant que leurs cabines Mercury sont pratiquement au point, eux aussi envoient des éclaireurs là-haut. Coup sur coup, en mai et en juillet, Alan Shepard et Virgil Grissom accomplissent un vol de 15 minutes. Comme il s'agit de premiers tests, ils ne seront pas placés sur orbite.
Ici Georges Raymond qui vous parle de New York. Réussite complète. Le commandant Alan Shepard, 37 ans, officier de marine et pilote d'essai, vient de faire vivre à des dizaines de millions de témoins, auditeurs de la radio et téléspectateurs, ainsi qu'à quelques 10 000 savants, ingénieurs et techniciens américains, une vingtaine de minutes bouleversantes. La vingtaine de minutes qu'il a fallu, après plus de 2 ans de travaux et de préparatifs, après des délais et des émotions que l'on devine aisément, pour effectuer le premier vol américain spatial et humain. Sur les écrans de la télévision, on a pu voir la fusée géante, dans la blancheur de ses 27 mètres, surmontée de la capsule spatiale tronconique appelée Liberté 7, où depuis 3 heures se trouvait le commandant Shepard, dans sa tunique de scaphandrier de l'espace, devant la mosaïque de leviers et de boutons de son tableau de bord. Puis, à 15h34 minutes et 20 secondes, heure belge, ce fut la mise à feu.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
Après quelques minutes, le premier rapport.
Freedom 7 reports the mission is still A-OK, full go.
Tout va bien. bien, la mission s'accomplit.
Enfin, le 20 février 1962, 10 mois après Gagarine, John Glenn prend le titre officiel d'astronaute en effectuant 3 tours complets de la planète.
John Glenn, premier Américain à voler en orbite autour de la Terre, revit cette expérience hors du commun au micro de Roger Clermont en 1966. Après cette terrible accélération, comment s'est passée la transition avec la pesanteur? Était-ce difficile?
Non, la transition est très rapide et très agréable.
C'est une espèce de libération, de soulagement?
Oui, c'est un peu ça. C'est très agréable et on s'y fait très rapidement.
Quand vous regardiez la Terre depuis l'espace, est-ce que les couleurs, les formes, les cours d'eau, les pays vous apparaissaient de la même manière que dans un avion à très haute altitude?
Pratiquement, oui. Les couleurs sont quasi identique. La grande différence, c'est que vous êtes beaucoup plus haut et que les choses que vous regardez sont très petites. Tout est très impressionnant, bien sûr. La chose la plus impressionnante, c'est de voir le soleil se coucher, puis se lever, avec des couleurs étincelantes et chatoyantes. C'est très différent de ce que vous voyez sur Terre.
Combien de couchers de soleil avez-vous vu?
3 couchers et 3 levers de soleil.
Cette fois, la course à la Lune est lancée. En fait, la Lune n'est déjà plus inviolable. Le 14 septembre 1959, les Soviétiques y ont envoyé l'Unik 2. Très naturellement, Vénus aussi reçoit la visite d'engins terrestres. On y envoie d'abord des Vénus-X sans résultat, et en novembre 1965, l'homme fait mouche pour la première fois avec Vénus 3, un Vénus 3 soviétique qui percute le sol de la planète.
Au cours des années 60, la course à l'espace devient très intense, voire impitoyable, à l'image des relations entre soviétiques et américains qui se dégradent de plus en plus. Entre Moscou et Washington, c'est l'escalade. En 1962, le président Kennedy ne cache plus ses ambitions.
Nous choisissons d'aller sur la Lune. Nous choisissons d'aller sur la Lune durant cette décennie et d'accomplir bien d'autres choses, non parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont ardues. Parce que cet objectif servira à organiser et à mesurer le meilleur de nos forces et de nos compétences. Parce que c'est un défi que nous voulons relever, un défi que nous ne voulons pas ajourner, un défi que nous avons l'intention de gagner.
Si les Américains ont dévoilé clairement leurs objectifs, les Soviétiques, eux, sont restés très discrets, pour ne pas dire secrets. Ce qui ne les empêche pas de poursuivre leur programme spatial sans faiblir. En 1963, l'URSS continue à innover en envoyant pour la première fois une femme dans l'espace, Valentina Tereshkova. Tendez bien l'oreille, ceci est un communiqué de Radio Moscou.
Le 16 juin 1963, à 12h30, heure de Moscou, le vaisseau cosmique Vostok 6, piloté pour la première fois au monde par une femme, la cosmonaute Valentina Tereshkova, citoyenne de l'Union soviétique, a été placée sur orbite d'un satellite de la Terre. Au cours de ce vol, se poursuivra l'étude de l'influence des différents facteurs du vol cosmique sur l'organisme humain, et en particulier l'analyse comparée de l'influence de ces facteurs sur l'organisme de l'homme et de la femme. Nous donnerons de nouvelles informations par la suite.
Voix de Valentina depuis le Vostok 6.
En octobre 64, Voskhod 1, qui pèse déjà 5 tonnes, s'installe sur orbite avec 3 hommes à bord. Voskhod 2, lui, n'emporte que 2 passagers, mais sa date de lancement est une date historique. En effet, le 18 mars 1965, Alexis Leonov sort de sa cabine en plein vol. Il demeure pendant 10 minutes dans le vide extra-atmosphérique et il devient ce que l'on appellera le premier piéton de l'espace.
Après les missions Mercury qui lui ont permis de lancer sur orbite les premiers astronautes américains, la NASA met au point le programme Gemini de 1963 à 1966. Un projet audacieux dont l'objectif est de préparer les futurs voyages habités vers la Lune.
Sonde lunaire,
compte à rebours,
arrimage,
amérissage,
peur cosmique,
nage spatiale,
compte à rebours,
apesanteur,
alunissage,
sonde lunaire,
rendez-vous,
peur cosmique,
nage spatiale,
arrimage,
apesanteur,
rendez-vous,
amérissage,
alunissage.
1965 s'était éteinte sur une prouesse cosmique longtemps attendue, le rendez-vous, un duo spatial entre Gemini 6 et Gemini 7. À peine né de 3 mois, 1966 allait nous faire craindre pour la vie de 2 hommes au moment précis où ils réalisaient la suite logique du rendez-vous, c'est-à-dire l'arrimage, la jonction en vol. À bord de Gemini 8, Scott et Armstrong réussissent la première jonction mécanique de l'histoire spatiale. Mais au Cap Kennedy, l'enthousiasme sera de courte durée. Une demi-heure après l'exploit, la voix d'Armstrong se charge d'inquiétude. Sommes en difficulté, nous décrochons. À 300 km d'altitude, les stabilisateurs de Gemini n'ont pas supporté la manœuvre de jumelage. Pour les cosmonautes, il y a péril et la NASA leur donne l'ordre de redescendre immédiatement. Heureusement, l'amérissage dans une zone inhabituelle aura lieu sans incident. 18 juillet. Young, Collins et leur Gemini 10 accomplissent le vol le plus complet de la série. Rendez-vous et arrimage sont réalisés à la seconde précise et les astronautes se servent de la fusée Agena comme moteur auxiliaire. Collins sortira de sa cabine pendant 28 minutes au lieu de 55. Ce sera la seule ombre.